Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel nous allons parler et rendre hommage à l'amiral Darlan, l'homme qui, après 2 ans et demi d'armistice, a relancé la France dans la guerre contre l'Axe le 13 novembre 1942, sans que de Gaulle ne soit pour rien dans tout cela. Darlan est un oublié de l'histoire et je ne vous cache pas que ça fait 10 ans que j'attends de faire cette émission, d'avoir l'occasion de la faire. Je devais lui rendre hommage dans une émission le 13 novembre 2015, mais ce jour-là, il y avait eu les attentats, donc c'était pas très opportun de le faire. Voilà. Comme vous le savez, nous commençons par faire quelques petites annonces habituelles. Alors, j'oubliais de préciser, ce soir, c'est Patrick Cattelan qui a la technique. Hein. Alors donc, quelques petites annonces habituelles. Alors d'abord, si vous cherchez mon bouquin, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française, 202 rue Lecourbe. Je précise d'ores et déjà que je ferai une séance de dédicace à la librairie française samedi prochain, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, le 5 juillet. Voilà. Par ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif Saint-Robert Bellarmin, qui ont publié récemment toute une série de romans catholiques, entre guillemets pour enfants, je dis bien entre guillemets, puisque Arsène Lupin, c'est entre guillemets censé être pour les enfants aussi, mais ça plaît également aux adultes, dont votre serviteur. Et j'ai commencé à lire l'un d'entre eux, écrit par un des prêtres qui était à la Sapinière, et c'est d'excellente qualité, tant sur le style que sur l'histoire. Je le dis en passant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du CSRB et je vous recommande en passant également le catéchisme du chanoine Moissé, qui est excellent, puisqu'en plus de la vérité, en plus des principes qui sont rappelés, eh bien, il y a une méthode extrêmement ludique qui est utilisée avec beaucoup d'anecdotes historiques pour illustrer les principes qui sont enseignés justement donc, dans le catéchisme. Voilà. Alors par ailleurs, comme vous le savez, nous faisons des appels aux dons, hein, appels aux dons pour des écoles, notamment Notre-Dame, l'école des Trois-Saint-Jean en Belgique, et également Notre-Dame Auxiliatrice à Béton. Notre-Dame Auxiliatrice, en ce moment, a particulièrement besoin de votre aide, donc si par extraordinaire, eh bien, vous en avez sous le coude, comme on dit, n'hésitez pas à leur donner un petit coup de pouce. Voilà. Vous pouvez aussi faire un don à nos amis du monastère de l'œuvre de l'étoile. Et puis les vrais aussi peuvent aller sur le site des éditions L'Estocade, chers amis, où vous retrouverez notamment mon dernier bouquin, Le Roi, le Dauphin et le Connétable. Et aussi, chers amis, le dernier bouquin d'Éric Leclerc, consacré à Louis de Frotet. Éric Leclerc, que j'espère recevoir de nouveau très bientôt à ce micro. Voilà, donc pour ce qui est des événements, je pense que je n'oublie rien. Donc je rappelle, séance de dédicace de votre serviteur, le 5 juillet prochain, à la librairie française. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Alors si tout de même, le week-end dernier, c'était l'événement annuel de Catholique de France. Et c'était un très bel événement, puisque c'était la réunion de catholiques, de familles catholiques, avec des conférences qui étaient, me semble-t-il, de qualité. Bon, je serai avec vous, je n'ai pas pu tout entendre parce que j'étais sur mon... Alors, comment on dit stand, Patrick Cattelan, en français ? Comment on doit dire ?
Un stand, ce serait un... Ah, oh là là.
Bon, on se comprend, en tout cas. Hein.
Oui, on se comprend. Je vais retrouver un mot.
Voilà. Vous tapez traduction québécoise. Voilà, donc, très bel événement. Donc, je vous invite à y aller éventuellement l'année prochaine. Alors, j'espère que je n'oublie rien. En fait, j'oublie toujours des choses. Hein, mais voilà, donc n'hésitez pas à être curieux aussi et aller en description. Comme ça, vous trouverez les choses que j'oublie. Voilà. Bah, écoutez, on va attaquer, mon cher Patrick Cattelan. Hein. Je pense qu'on peut y aller. Vous êtes prêts ?
Moi, je suis prêt.
Allons-y. Alors d'abord, précision. J'invite ceux qui ne l'auraient pas fait à aller voir nos 2 vidéos précédentes au sujet de la question de Gaulle-Pétain. Dans la première vidéo, nous avons démontré que De Gaulle n'a pas quitté la France le 17 juin 1940 pour rompre avec Pétain et créer une dissidence militaire, mais qu'il avait quitté la France à la demande de Paul Reynaud en qualité d'échelon précurseur d'un gouvernement d'émigration, pendant que Pétain, le 18 juin, appelait à la résistance. Oui, vous avez bien entendu. Dans la deuxième émission, qui s'appelle Pétain contre Hitler, que nous avons mis en ligne la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vue, vraiment, je vous invite à aller la voir. Dans la deuxième émission, donc, nous avons exposé la stratégie anti-axe du maréchal Pétain, et nous avons exposé ce qu'était véritablement la politique dite de collaboration. Cette politique n'était pas un renversement d'alliance. C'était des négociations qui portaient sur la matière économique en vue d'obtenir des matières premières, parce que les Allemands réquisitionnaient les matières premières, afin donc de faire tourner l'économie française et ne pas laisser les Français crever de faim pendant la guerre. Et par ailleurs, cette politique permettait de dissimuler la stratégie anti-axe du maréchal Pétain. Quelle était cette stratégie? Citation de votre serviteur. Alors, donc la stratégie anti-axe de Pétain se résumait par les quatre points suivants. Conserver la virtualité de l'alliance franco-britannique, notamment par des accords secrets. Rassurer les Allemands à l'ouest via la collaboration pour mieux les orienter à l'est. Empêcher la mainmise de l'axe sur l'Afrique du Nord, seule rampe de lancement possible pour un débarquement anglo-saxon à moyen terme. Et enfin, relancer l'armée française dans la guerre au moment opportun. Petite citation de Raymond Aron. Oui, vous avez bien entendu, chers amis, Raymond Aron, le contradicteur de Jean-Paul Sartre sous la Ve République. Donc, citation issue de son livre Le spectateur engagé. Je disais que les vichistes n'étaient pas, par définition, des traîtres. Il fallait attendre le bon moment pour rentrer dans la guerre. Il était absurde de demander au gouvernement de Vichy d'entrer dans la guerre sans avoir la possibilité, sans attendre que le rapport des forces fût modifié entre les Alliés et l'Allemagne. Cette citation vaut son pesant d'or. Dite par quelqu'un d'autre, elle aurait pu poser quelques problèmes. Dans cette deuxième émission que nous avons faite, donc Pétain contre Hitler, nous avons vu par ailleurs quelque chose de très important, à savoir que le 4 août 1940, le maréchal Pétain a confié à l'amiral Darlan la mission de relancer la France et l'Empire dans la guerre en cas d'invasion de la zone libre par l'Axe. Donc, dès cette époque, Pétain préparait le retour de la France dans la guerre. Nous avons vu également que le général Weygand avait forgé l'armée de la revanche et que cette armée de la revanche, eh bien, avait une énorme dévotion envers le maréchal Pétain et qu'elle était extrêmement hostile à toute idée de dissidence. C'est pourquoi cette armée de la revanche rejetait complètement le général de Gaulle. Donc nous allons voir aujourd'hui comment Darlan a mis en œuvre la fameuse mission du 4 août 1940. Gardez toujours à l'esprit cette mission du 4 août 1940. Et nous allons voir qu'il l'a exécutée à l'occasion du débarquement américain le 8 novembre 1942. Et cela aboutira bien entendu à la relance de la France dans la guerre le 13 novembre 1942, et ce, au nom non pas du général de Gaulle, mais au nom du maréchal Pétain. C'est au nom du maréchal Pétain que la France a repris la guerre le 13 novembre 1942. Ce qui fera écrire ceci à Eisenhower dans son ouvrage Croisade en Europe. Citation, et là, accrochez-vous. Avec Darlan, nous nous trouvions en présence du chef des forces françaises combattantes. Je répète. Avec Darlan, nous nous trouvions en présence du chef des forces françaises combattantes. Qui sait que Eisenhower a écrit cela? Pas grand monde. Quand j'avais fait mes premières vidéos chez Tepa, j'avais évoqué que Darlan avait été le chef des forces françaises combattantes. Des gaullistes m'étaient tombés dessus sur les réseaux sociaux, alors que ce n'était que la stricte évidence factuelle. Cette émission, chers amis, vous l'avez compris, vise à rendre justice à l'amiral Darlan, personnage à la fois calomnié et oublié. Hein, avec les décennies qui ont suivi, le personnage de Darlan a été complètement effacé des mémoires. Autant Pétain est resté dans les mémoires, autant après sa phase de calomnie, Darlan a été oublié. Donc nous allons voir qu'il a particulièrement bien manœuvré dans un contexte qui était extrêmement tendu et extrêmement compliqué à gérer. Avant de nous plonger dans le déroulé du débarquement, dite opération Torche, il nous faut dire quelques mots de ses protagonistes. D'abord, les Américains. Les Américains sont pressés par les Soviétiques d'ouvrir un deuxième front à l'ouest, afin de les soulager sur le front de l'Est. Les Américains vont choisir de débarquer en Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que la Wehrmacht y est absente. Pourquoi la Wehrmacht y est absente ? Grâce à la stratégie anti-axe du maréchal Pétain, qui a empêché pendant plus de 2 ans les Allemands de s'implanter en Méditerranée occidentale. Pour faire ce débarquement, les Américains vont prendre des contacts avec les résistants locaux, qui sont gérés par un groupe qu'on appelle le groupe des 5. Qui sont ces 5 ? Il y a Jacques Lemaigre Dubreuil, qui est un ancien cagoulard et qui est le dirigeant des huiles d'olive Le Sieur. Je pense que vous connaissez tous les huiles d'olive Le Sieur. Il y a son bras droit Jean Rigaud. Il y a un diplomate proche de Végan, Jacques de Saint-Ardouin. Il y a le chef des chantiers de jeunesse en Afrique du Nord, le général von Eck. Et il y a le dernier, Henri d'Astier de la Vigerie, qui est un résistant royaliste, agent du comte d'Orléans, et qui jouera un rôle important dans l'assassinat de l'amiral Darlan. Le but de ce groupe des 5 est de créer un gouvernement provisoire au moment où les Américains débarqueront, sans pour autant d'ailleurs appeler le général de Gaulle, qu'ils rejettent également. Leur idée, c'est de faire venir un général français prestigieux qui officiellement demandera aux Américains d'intervenir. Ça tombe bien, ils en ont un sous la main, le général Giraud. Giraud, le 17 avril 1942, s'est évadé de la forteresse de Königstein, qui est en Prusse, et le 29 avril, il est déjà dans le bureau même du maréchal Pétain. Il raconte tout ça dans ses mémoires. Et Giraud raconte dans ses mémoires que Pétain lui a dit à ce moment-là que les Allemands avaient déjà virtuellement perdu la guerre. Ça serait encore long, mais ils ont déjà virtuellement perdu la guerre. Alors précisons aussi que depuis le départ de Végan de l'Afrique du Nord, en novembre 1941, sous pression allemande, l'armée d'Afrique a à sa tête le général Juin, qui a hérité de Végan les consignes qu'il faut donner à cette armée d'Afrique, à savoir qu'il faut repousser quiconque transgressera, violera la souveraineté française. Donc ça vaut aussi pour l'Axe. Et je répète ce que j'ai déjà dit, à savoir que cette armée d'Afrique, qui est l'armée de la revanche, était extrêmement hostile à De Gaulle et extrêmement dévouée au maréchal Pétain. Et comme elle était aussi dévouée, comme elle était, pardon, hostile à toute idée de dissidence, elle était également hostile à la dissidence que Giraud a tenté de faire. Et Darlan, dans tout cela, me direz-vous. Darlan a le titre d'amiral de la flotte depuis le 6 juin 1939. Darlan a bâti la marine française, qui est la plus puissante de son histoire depuis Louis XIV. Darlan va être le premier ministre de la marine du maréchal Pétain, et il est frappé en plein cœur par la trahison anglaise de Mercel Kébir, où on voit 20% de notre flotte être coulée, alors qu'elle était au port. Hein. Bon. Le 4 août 1940, comme je vous l'ai dit, le maréchal Pétain lui donne la mission de relancer la France dans la guerre en cas d'invasion de la zone libre par l'Axe. Le 10 février 1941, Darlan devient le chef du gouvernement en qualité de vice-président du Conseil. Il dirige alors la France et il pousse les Allemands à faire une paix de compromis avec l'Angleterre, tout en essayant de négocier avec eux un allègement du régime d'occupation. En mai 1941, Darlan va aller très loin et jouer avec le feu, puisqu'il va signer ce qu'on appelle les protocoles de Paris, qui pouvaient permettre potentiellement aux Allemands de s'implanter en Méditerranée, chose qui était contraire à la stratégie anti-axe du maréchal Pétain, qui a toujours voulu empêcher les Allemands d'aller en Méditerranée. Donc en juin 1940, au Conseil des ministres, les Allemands, Vichy, va rejeter les fameux protocoles de Paris, sachant que Darlan lui-même avait compris qu'ils étaient mauvais, parce que un membre des services secrets de la marine, qui s'appelle Gandin, l'avait informé quelques jours auparavant que les Allemands n'allaient pas tarder à attaquer l'URSS. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 1er août, l'amiral Li Yi, qui est l'ambassadeur américain à Vichy, a une discussion avec Darlan, le 1er août, hein, alors que les Américains ne sont pas encore en guerre. Et Darlan lui dit ceci. Et ça, c'est Li qui le télégraphie à Washington. Hein. Darlan dit ceci. « Quand vous aurez 3000 chars, 6000 avions et 500 000 hommes à nous amener à Marseille, faites-le-moi savoir, alors nous saluerons notre arrivée. » En somme, nous collaborerons ensemble. Les États-Unis et l'Allemagne vont entrer en guerre en décembre 1941. Et à partir de là, Darlan comprend qu'il y a un point de bascule. Et les États-Unis, enfin les Alliés, vont organiser une conférence donc, militaire interalliée en décembre 1941 qui s'appelle Arcadia. Darlan va demander à participer clandestinement à cette conférence, chose qu'à l'époque, eh bien, quelque chose qui lui sera refusé. Les contacts entre Darlan et les Américains vont commencer à prendre corps, j'allais dire même la collaboration entre Darlan et les Américains va commencer à prendre corps en février 1942. Le 14 février 1942, l'amiral Fénard, qui est un ami personnel de l'amiral Darlan et qui a le titre suivant de secrétaire général de la délégation générale du gouvernement en Afrique du Nord, l'amiral Fénard, donc, qui est à Alger, rentre en contact avec un certain Robert Murphy, qui est un consul américain en Afrique du Nord, puisque Weygand avait fait venir des consuls américains pour exécuter les accords qu'il avait conclus justement avec Murphy. Ce sont des accords pour ravitailler l'Afrique du Nord. Donc Robert Murphy, qui est un consul américain et qui est le représentant spécial de Roosevelt en Afrique du Nord, rencontre l'amiral Fénard, vous disais-je. Et lors de cette discussion, Fénard parle à Murphy du fils de l'amiral Darlan, à savoir Alain Darlan. D'ailleurs, Patrick Catelon, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à mettre une photo de l'amiral Darlan dans l'émission.
Je vais rajouter ça.
Donc nous sommes le 14 février, et l'amiral Fénard parle à Robert Murphy du fait que Alain Darlan est l'agent de liaison de l'amiral Darlan. Alain Darlan est un agent d'assurance qui, de par sa profession, fait de nombreux allers-retours entre l'Algérie française à l'époque et la France. Le 16 février, donc deux jours plus tard, il y a une première rencontre entre Alain Darlan et Robert Murphy. Et les rencontres vont se multiplier dans les semaines à venir. Le 14 avril 1942, Murphy va, Murphy va envoyer un télégramme à Washington. C'est fondamental, pourquoi ? Parce que Murphy nous dit, dans un document parfaitement neutre, ce que sont les intentions véritables de Darlan et de Pétain. Murphy écrit ceci à Washington, citation. J'ai eu plusieurs conversations avec Alain Darlan, donc le fils de l'amiral. Le maréchal Pétain et l'amiral Darlan sont convaincus de la victoire américaine. Je répète, le maréchal Pétain et l'amiral Darlan sont convaincus de la victoire américaine. Le maréchal Pétain et l'amiral Darlan sont déterminés à empêcher l'Afrique du Nord de tomber sous la coupe de l'Axe. Voilà. Il déteste les Allemands et abhorre les Italiens, etc. Donc l'ardeur et l'apparente sincérité amicale des paroles du jeune Darlan et de Fénard et leur désir non caché de voir la France coopérer avec les États-Unis sont très encourageants. Donc on nous dit que Darlan et Pétain veulent collaborer avec les Américains pour vaincre l'Axe. Le 14 avril, donc, il y a ce télégramme. Le 18 avril, 4 jours plus tard, Darlan est déchu de son poste de vice-président du Conseil. Et à ce moment-là, il est remplacé par Pierre Laval. Mais pour autant, Darlan reste le dauphin du régime. C'est le numéro 2 du régime. Et en cas d'empêchement, c'est à lui de gouverner et de remplacer Pétain. Darlan reste par ailleurs le chef des trois armées. Hein, air, terre, mer. Le 18 septembre, l'amiral Darlan donne pour mission à son fils de toujours continuer à creuser les contacts avec Robert Murphy. Alain Darlan donne rendez-vous à Murphy le 12 octobre à Alger. Mais, problème, il fait une crise de poliomyélite. Et à ce moment-là, il est alité, il ne peut plus rien faire. Il sera remplacé en conséquence par le lieutenant-colonel Chrétien, qui est le chef des services secrets de Vichy en Afrique du Nord. Murphy va dire à Chrétien, le 12 octobre, donc, vous disais-je, qu'il n'y aura pas de débarquement américain sans l'accord préalable du gouvernement français. Le lendemain 13 octobre, le capitaine ou le commandant d'Orange, qui est le chef de cabinet du général Juin, donc le chef de l'armée d'Afrique, le commandant d'Orange a une discussion également avec Murphy. Et celui-ci lui répète qu'il n'y aura pas de débarquement américain sans un accord avec le gouvernement français. Le 19 octobre, Murphy obtient de Roosevelt les pleins pouvoirs pour négocier avec Darlan. Donc Roosevelt voulait jouer à fond la carte Darlan. Malheureusement, les discussions vont cesser. Pourquoi ? Parce que Mast, le colonel Mast, qui est le représentant de Giraud en Afrique du Nord, met son veto pour la poursuite de ces discussions. C'est dramatique pour l'histoire de France. Le 29 octobre, Darlan fait une tournée dans l'Empire français. Il rentre en France, à Vichy, donc à la fin du mois. Le 4 novembre, Darlan dîne chez l'amiral Auphan avec également Yves Boutillier. Et il leur dit qu'il y aura un débarquement américain, mais pas avant le printemps 1943, parce que c'est cette date que Murphy a donnée. Néanmoins, le général Bergeret, l'ancien ministre du maréchal Pétain, qui a reconstruit l'aviation de la revanche, qui reprendra les combats en novembre 1942, le général Bergeret a des contacts avec l'intelligence service. Et l'intelligence service l'informe de l'imminence du débarquement. Excusez-moi. Donc Bergeret quitte Vichy, il vole vers Alger et il y retrouve Darlan. Mais pourquoi Darlan était à Alger ? Pourquoi était-il retourné à Alger ? Parce que son fils Alain Darlan avait eu une crise et on pouvait croire à ce moment-là qu'il était proche de la mort. Et effectivement, il a frôlé la mort à ce moment-là. Donc Bergeret va à l'hôpital où Darlan est au chevet de son fils et il lui dit « Amiral, le débarquement est imminent, il va arriver dans quelques jours. » Mais Darlan ne le croit pas, puisqu'on lui a assuré que le débarquement n'aurait pas lieu avant le printemps 1943. Nous arrivons au 7 novembre, à la soirée du 7 novembre 1942. Jacques de Saint-Ardouin, qui est l'un des membres du groupe des 5, réveille le lieutenant-colonel Chrétien, je le répète, chef des services de renseignement de Vichy en Afrique du Nord. Il lui annonce que le débarquement américain, l'opération Torche, va commencer dans quelques heures. Il lui demande d'emmener Murphy chez le général Juin pour que les événements ne s'enveniment pas et pour que tout se fasse le plus simplement du monde, je dirais. Donc le 8 novembre, après minuit, le lieutenant-colonel Chrétien arrive avec Murphy et Saint-Ardouin chez le général Juin. Join leur dit que l'amiral Darlan est son supérieur, donc il serait surtout opportun de faire venir l'amiral Darlan. On va chercher Darlan. Il arrive, donc, comme je vous l'ai dit, vers 1h du matin, et ce qui est fondamental et providentiel, c'est que Darlan arrive avec son chef de cabinet, l'amiral Batté. Or, l'amiral Batté dispose d'un code secret qui lui permet de communiquer avec Vichy à l'insu des Allemands. Murphy informe Darlan que le débarquement ne va pas tarder à commencer. Et là, Darlan explose de colère parce qu'on l'a trompé. On lui a dit qu'il n'y aurait pas de débarquement sans l'accord préalable du gouvernement français. Or, il n'y a eu aucun accord préalable entre le gouvernement français et les Américains. Et il y a une phrase de Darlan connue où il dit « Je savais que les Anglais étaient des imbéciles, je découvre que les Américains l'étaient également, etc. » Ceci étant, Darlan est une personne intelligente et rationnelle. Et il va très vite se calmer. Pendant ce temps, des hommes armés, dirigés par Henri d'Astier de la Vigerie, entourent la villa et font prisonniers Darlan et Juin. À 4h du matin, le débarquement commence. Et là, les troupes françaises vont riposter, vont empêcher ce débarquement. Pourquoi ? Parce que si on laissait faire, eh bien, il y aurait eu un surcroît d'oppression par l'axe de l'autre côté de la Méditerranée. Et ça, Eisenhower le comprend très bien, et il n'en fait absolument aucun grief à la France, à Vichy, à Pétain. Citation toujours de son ouvrage « Croisade en Europe », Eisenhower écrit ceci. « Nous comprenons très bien qu'officiellement, on serait obligé de nous opposer à une certaine résistance. » Je répète. « Nous comprenions très bien qu'officiellement, on serait obligé de nous opposer à une certaine résistance. » Puisqu'à l'intérieur de l'Europe, les Français se trouvaient toujours sous la botte allemande. Voilà. Donc, le débarquement commence à 4h du matin. À 7h du matin, le docteur Ménétrel, le docteur particule du maréchal Pétain, réveille le maréchal Pétain. Et il lui annonce que que le débarquement américain a commencé. Réponse de Pétain, je ne suis pas étonné, j'en avais rêvé cette nuit. On pense que Pétain a été informé de l'imminence du gouvernement, non mais c'est pas possible, c'est la canicule, hein, du débarquement par justement le général Bergeron. Je précise aussi que très rapidement, le commandant d'Orange, donc le chef de cabinet de Juin, fait venir des soldats et que très vite Manu Militari dégage les pseudo-résistants qui retenaient Juin et Darlan prisonniers dans la villa donc du général Juin. Donc très vite, Juin et Darlan rejoignent le fort l'Empereur et là, Darlan reçoit un premier télégramme qui dit ceci, citation, un télégramme de Pétain. « Je suis heureux que vous soyez sur place. » Vous pouvez agir et me renseigner. Vous savez que vous avez toute ma confiance. Vous savez que vous avez toute ma confiance. Question. Pourquoi Darlan sait-il qu'il a toute la confiance du maréchal Pétain ? Réponse. À cause de la mission du 4 août 1940, au terme de laquelle il doit reprendre la guerre en cas d'invasion de la zone libre par l'axe. Donc Pétain fait un clin d'œil à la mission, enfin un rappel volé, je dirais plutôt, à la mission du 4 août 1940, qui va être le fondement de la politique de Darlan dans les jours critiques qui vont suivre. Point intéressant également. Vers 10h du matin, Pétain reçoit un des représentants de l'ambassade américaine pour lui donner la condamnation officielle, le désaveu officiel du débarquement. Donc Pétain remet le document au diplomate américain qui s'appelle Tuck. Tuck, vers 10h, envoie immédiatement un télégramme à Washington. Que dit-il ? Comme je me levais pour prendre congé, il, le maréchal Pétain, m'a pris les deux mains dans les siennes me regardant avec insistance et en souriant. Il m'a accompagné jusqu'à l'antichambre et est reparti d'un pas vif vers son bureau en fredonnant un petit air. Donc Pétain fait passer le message qu'il est heureux de ce débarquement qui va être un des éléments de la libération du territoire français. À ce moment-là, l'Axe propose l'intervention de son aviation en Afrique du Nord, mais Darlan dilue, voilà, comme on dit dans mon métier. Nous sommes donc le 8 novembre encore, hein, à ce moment-là, et à 17h, le général Juin demande à son chef de cabinet d'Orange, dont je vous parle beaucoup, de trouver un général américain avec qui on pourra signer un armistice, à tout le moins pour la région d'Alger. On trouve pour cela le général Ryder, et un armistice est signé à 20h, qui entre en vigueur à 22h. Donc l'armistice est signé le 8 novembre au soir pour Alger et sa région. À ce moment-là, Giraud n'est pas encore arrivé en Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que quelques jours plus tôt, il a compris qu'il avait été mystifié par les Américains. On avait vendu à Giraud qu'il serait le chef des forces alliées et que le débarquement aurait lieu également en Provence. Or, Giraud ne sera pas le chef des forces alliées, mais simplement des forces françaises, et le gouvernement n'aura lieu que en Algérie.
Le débarquement.
J'ai encore dit gouvernement ?
Oui.
C'est la canicule, hein. Ne cherchez pas, voilà. Ça pourra permettre aux trolls de s'amuser. Donc nous arrivons le 9 novembre. Le groupe des cinq, à ce moment-là, est furieux. Pourquoi ? Parce que c'est Darlan qui a signé l'armistice autour de la région d'Alger, qui vaut pour la région d'Alger. Donc, lorsque l'on fait ça, les Américains reconnaissent son autorité. Et donc, on ne reconnaît pas la pseudo-autorité du gouvernement provisoire que voulait créer le groupe des cinq. Par ailleurs, le 9 novembre, vers 12h30, des avions allemands commencent à débarquer en Tunisie. Giraud, quant à lui, finit par arriver à l'aéroport de Bilda à 13h45. Il fait une proclamation aux Pieds Noirs et à l'armée d'Afrique dans laquelle il leur demande de reprendre les combats. Mais, comme dirait l'intéressé, ça fait pchit, tout le monde s'en moque. Pourquoi ? Parce que cette armée d'Afrique ne veut obéir qu'au maréchal Pétain ou à son représentant, qu'est l'amiral Darlan. Elle est dévouée à Pétain, elle est dévouée à Vichy, elle ne veut surtout pas faire dissidence. Eisenhower, je crois, nous le dit, il faut que je retrouve la page. Donc toujours dans son livre « Croisade en Europe », qui est une machine de guerre, ce livre, contre les mensonges gaullo-communistes. Donc citation de Eisenhower. « La fraîcheur de l'accueil des Français d'Afrique au général Giraud donna un coup terrible à nos espérances, il fut complètement ignoré. Il fit un discours radiodiffusé annonçant qu'il prenait la direction de l'Afrique du Nord et se mettait à la tête des forces françaises, lesquelles devaient cesser le combat contre les alliés, mais son discours n'eut pas le moindre effet. » Pas le moindre effet. À 17h45, le général Ryder pousse Darlan, j'allais dire Fécamp, oui, pousse Darlan a signé un armistice qui, cette fois-ci, vaudrait pour l'ensemble de l'Afrique du Nord. Mais Darlan refuse parce qu'il n'a pas eu de consigne de son gouvernement à ce sujet. À 18h, Darlan envoie le projet d'armistice, enfin, il le câble, comme on dit, par télégramme, à Vichy, pour bien leur expliquer la situation. Retenez ce point très important également. Pendant ce temps-là, au Maroc, le résident général donc, du Maroc, qui est le général Nogues, envoie un de ses hommes, le capitaine de frégate Bataille, à Vichy, donc par avion, pour discuter avec le maréchal Pétain et recevoir les instructions concernant les événements. Nous arrivons le 10 novembre, chers amis. À 13h, Giraud, qu'est-ce que je raconte ? À 3h du matin, 3h du matin, Giraud demande et obtient un entretien avec le général Juin, dans la villa du général qui s'appelle la Villa des Oliviers. Et Juin reçoit Giraud en robe de chambre. Ils ont une longue discussion pendant une heure, il crève les abcès, et pour assurer, je dirais, l'unité française, Juin accepte, sur le plan du principe, de céder le commandement de l'armée d'Afrique au général Giraud. Pour l'instant, c'est officieux. À 9h, les officiers français et américains se retrouvent à l'hôtel Saint-Georges, à Alger. Côté français, on trouve Darlan, Juin, ainsi que l'amiral Moreau et les généraux Kultz et Mandrigal. Et côté américain, il y a notamment Clark et Murphy. Le général Clark, qui est l'adjoint d'Eisenhower, met une énorme pression sur Darlan pour lui faire signer un armistice valant pour toute l'Afrique du Nord. Mais Darlan refuse. Il tient bon, pourquoi ? Parce qu'il n'a toujours pas l'accord du gouvernement de Vichy. Le général Juin, à ce moment-là, demande aux Américains de sortir pour qu'il y ait une explication entre Français. Et là, Juin va arriver à convaincre Darlan que même si on n'a pas eu encore le feu vert de Vichy, il faut signer cet armistice parce qu'il est temps maintenant de relancer la France dans la guerre. Darlan en est extrêmement ému et il accepte et il signe l'armistice. Il envoie ensuite un long télégramme à Vichy pour lui expliquer pourquoi il l'a fait. Et là, les conjurés, le groupe des cinq, hein, est furieux puisqu'une fois encore, Darlan voit son autorité être approuvé par les Américains. À ce moment-là, Darlan ne relance pas encore la France dans la guerre. Pourquoi ? Parce que les conditions de la mission du 4 août 1940 ne sont pas encore réunies. Les Allemands n'ont pas encore envahi la zone libre. À 12h30, Pétain et Weygand reçoivent au Conseil des ministres le télégramme de Darlan qui évoque l'armistice pour l'Afrique du Nord. L'amiral Offan, qui était également dans ce conseil des ministres, témoigne que Pétain et Weygand ont reçu ce télégramme avec un immense soulagement. Néanmoins, Laval, à ce moment-là, part à Munich pour négocier avec Hitler. Et il obtient de Pétain un désaveu officiel de cet armistice. Et ça, c'est vers 14h50. À 16h35, Darlan apprend ce désaveu officiel. Il ne sait pas qu'en Conseil des ministres, il a été approuvé. Et il répond ceci par télégramme. « Reçu votre message, j'annule mon ordre et me constitue prisonnier. » Donc à ce moment-là, à Vichy, on va croire que Darlan est prisonnier. À 16h48, l'amiral Offan invite le maréchal Pétain à envoyer un télégramme secret à Darlan, via, rappelez-vous, le code secret de l'amiral Battet. Et on envoie à Darlan un premier télégramme secret. Citation. « Comprenez que cet ordre était nécessaire pour négociation en cours. » Je répète. « Comprenez que cet ordre était nécessaire pour négociation en cours. » Donc Darlan répond. « Reçu et bien compris. » Darlan comprend qu'il n'est pas désavoué par le maréchal Pétain. Nous arrivons au 11 novembre. Vers 8h du matin, le capitaine de frégate Bataille, qui avait été envoyé à Vichy, rappelez-vous, par le général Noguès, résident général du Maroc, entre dans le bureau du maréchal Pétain. Et Pétain lui dit que Noguès va être nommé son représentant officiel en Afrique du Nord, puisqu'il croit Darlan prisonnier. À 10h, donc une fois que Bataille, je précise, a cette information, il repart immédiatement à Vichy. Qu'est-ce que je raconte ? Au Maroc. À 10h, il y a un télégramme officiel du gouvernement français pour dire, enfin une proclamation officielle du télégramme du gouvernement français. J'ai dit gouvernement et pas débarquement, vous avez remarqué, Patrick Catalan. Du gouvernement français pour annoncer que Noguès est officiellement donc le représentant du maréchal Pétain en Afrique du Nord, je répète, parce qu'on croit à ce moment-là Darlan prisonnier. On envoie à ce moment-là un deuxième télégramme secret à Darlan. Citation. Comprenez bien que c'est parce qu'on vous suppose prisonnier que le général Noguès a été désigné comme représentant du maréchal. Je répète. Comprenez bien que c'est parce qu'on vous suppose prisonnier que le général Noguès a été désigné comme représentant du maréchal Pétain. Donc, grâce à ce deuxième télégramme secret, une fois encore, on confirme à Darlan qu'il n'est pas désavoué par Vichy. Dans la matinée du 11 novembre, commence l'opération Attila. L'opération Attila, c'est l'invasion de la zone libre par l'Axe. Et là, tout change. Pétain proteste officiellement contre cette invasion. Il le fait dans une déclaration audio qui va tourner sur les radios à partir de 10h30. À ce moment-là, comme il y a une invasion de la zone libre, eh bien, les conditions pour la mise en œuvre de la mission du 4 août 1940 sont réunies. Darlan l'observe et donc commence à mettre en œuvre cette mission. Et tout de suite, il ordonne à l'amiral Esteva, le résident général de Tunisie, de s'opposer à l'Axe. Il ordonne à l'amiral Laborde, qui est à Toulon, de ramener la flotte française en Afrique du Nord. Ce qu'elle ne pouvait pas faire parce qu'en réalité, il n'y avait pas assez de... Je crois que c'est mazout, de mémoire, l'essence pour les navires. Et surtout, il donne l'ordre à Juin de reprendre les combats contre l'Axe en envoyant notamment un télégramme qui dit ceci. Position de neutralité cesse vis-à-vis de l'Axe. Position de neutralité cesse vis-à-vis de l'Axe. Parce que contrairement aux idées reçues, Vichy n'a jamais été allié de l'Axe. La position de Vichy était celle d'un pays neutre. Voilà. Le soir, le commandant de frégate bataille arrive à Alger. Et là, il évoque que Pétain lui a dit qu'il avait choisi Noguès comme représentant du maréchal, puisque comme représentant, puisque il croyait Darlan prisonnier. Sauf que Darlan en fait n'était pas prisonnier. Bon. Donc il y a une situation totalement confuse. À qui faut-il obéir, à Noguès ou à Darlan? L'armée ne le sait pas à ce moment-là. Donc Darlan et Juin suspendent leur ordre de reprise des combats, ce qui met évidemment en colère les Américains. Mais ils ne pouvaient pas faire autrement, puisque le soir, le général Kutz et le général Mandrigal vont voir Juin pour lui dire que de toute façon, ils ne pourront obéir, ils ne peuvent obéir que au représentant officiel du maréchal Pétain, à savoir le général Noguès. Donc il y a une volonté chez ces deux officiers de ne pas faire dissidence. Nous arrivons au 12 novembre. Clark, à ce moment-là, le général Clark, est furieux et il convoque Darlan et Juin pour leur intimer l'ordre de redonner les ordres de reprise des combats. À 16h, Noguès arrive enfin à Alger, à l'hôtel Saint-Georges. Et là, il y a une réunion entre les officiers français. Donc il y a Noguès, Juin, Kultz, Mandrigal, Darlan. Et Noguès constate que Darlan n'est pas prisonnier et donc qu'il n'a aucune raison d'être le représentant officiel du maréchal Pétain. Une nouvelle réunion est faite à 22h, une réunion franco-américaine avec des officiers français et américains. Et dans cette réunion, Giraud participe. L'ambiance est glaciale entre Giraud et Noguès, puisque Noguès refuse de lui serrer la main. Néanmoins, à l'issue de cette réunion, il est décidé trois choses. Premièrement, que Darlan serait le chef du pouvoir exécutif. Deuxièmement, que Juin serait le chef de l'armée d'Afrique. Troisièmement, que Giraud aurait la faculté de lever un corps franc. Donc, on a décidé que Darlan serait le patron, d'un point de vue politique. Noguès va envoyer au maréchal Pétain un télégramme pour lui dire que Darlan n'étant pas prisonnier, c'est lui qui est son représentant en Afrique du Nord. C'est absolument fondamental, chers amis. Pourquoi ? Noguès ne le sait pas à ce moment-là. Hein. Mais si Darlan redevient le chef, en vertu de la mission du 4 août 1940, eh bien les combats reprendront. Donc ce télégramme est une façon de demander la reprise des combats. Noguès ne le sait pas, mais tels sont les faits. Le 13 novembre au matin, à 9h, l'amiral Offan montre ce télégramme de Noguès au maréchal Pétain. Et Pétain approuve ce télégramme de Noguès dans lequel il demande à ce que son autorité soit retransmise à l'amiral Darlan. Voilà, donc Pétain approuve ce transfert de pouvoir qui est synonyme de reprise des combats. Laval accepte aussi. Il l'accepte parce qu'il pense que ça évitera aux événements de dégénérer en substance. Mais il veut soumettre la décision finale aux autorités d'occupation allemande. Dans la matinée, le général Juin, conformément à la discussion qu'il avait eue quelques jours plus tôt avec Giraud, cède le pouvoir de l'armée d'Afrique, enfin le commandement de l'armée d'Afrique, au général Giraud. Et il doit faire preuve de grande diplomatie vis-à-vis de Nogues pour cela. Pendant ce temps, il y a une préparation de déclaration officielle de Nogues et de Darlan pour dire que Nogues transmet son pouvoir à Darlan et que Darlan, de son côté, va relancer la France dans la guerre. Vers 15h, les Allemands n'ont toujours pas approuvé le transfert de pouvoir de Nogues à Darlan. L'amiral Offan, à ce moment-là, est donc lassé d'attendre. Et il envoie spontanément, avec l'accord de Pétain, le télégramme suivant, accord intime du maréchal et du président Laval, mais décision officielle soumise aux autorités d'occupation. Accord intime du maréchal, donc pour le transfert de pouvoir de Nogues à Darlan, donc pour la reprise des combats. Ce télégramme secret est une approbation de la reprise des combats par Pétain, et c'est tout à fait normal, puisque ce n'est que la mise en œuvre, je le répète, de la mission du 4 août 1940. Alors, chers amis, comme vous vous en doutez, pendant des décennies, eh bien, l'histoire officielle a voulu nier l'existence de ce télégramme secret. Paxton la nie, le saint Paxton, n'est-ce pas, entre guillemets, nie son existence dans son livre « La France de Vichy », et d'autres historiens de cour l'ont fait à sa suite. Manque de chance. Hervé Couteau-Bégary et Claude Huant ont retrouvé le télégramme que voici, Patrick Catalon. Est-ce qu'on le voit ?
Rapprochez-le encore un petit peu de la caméra. Voilà. On le voit très bien. Voilà.
Donc ce télégramme, dont toute l'histoire académique, dont toute l'histoire officielle nous disait qu'il n'existe pas, eh bien ce télégramme existe bel et bien. Je vous cite Hervé Couteau-Bégary à ce sujet, et Claude Huon. Après d'autres, Jean-Baptiste Duroussel a mis en doute l'existence de ce télégramme. Pourtant, les témoignages concordants d'Offan, Joannin, Moreau, Robert, Bergeret, Dupin de Cire, il aurait pu rajouter le général Juin, puisque au procès Pétain, le général Juin fait mention. Alors, général Juin qui sera fait maréchal sous la 4e République, hein, je précise. Le général Juin, au procès Pétain, atteste de l'existence de ces télégrammes et de leur importance. Hein. Donc tous donnent leurs témoignages qui ont été donnés très tôt après la guerre, trop tôt pour qu'une machination ait eu le temps de se mettre en place. En outre, Clark est informé le soir même que Pétain a donné sa bénédiction à l'accord. L'AOF ne s'est rallié, donc l'Afrique occidentale française, ne s'est rallié qu'au vu de ce télégramme et après avoir fait vérifier son authenticité. De toute façon, il n'y a plus lieu à discussion, ce télégramme a été retrouvé et il est publié dans le présent livre en fac-similé, avec la griffe du sous-chef d'état-major de la marine Maroc, le capitaine de frégate Le Potier, qui l'authentifie. Voilà. Donc, vous voyez, on nous traite de menteurs, alors qu'en fait, c'est en face qu'ils mentent. Alors, quand on a retrouvé ce télégramme, M. Paxton, donc le pape de l'historiographie anti-française sur Vichy, était assez embêté. Il avait écrit noir sur blanc que le télégramme n'existait pas, et voilà que finalement, le télégramme existe. Mince. Alors, que faire ? Eh bien, Paxton va prendre ses lecteurs pour des abrutis en essayant de donner à ce télégramme un sens qu'il n'a pas. Paxton nous dit que ce télégramme signifiait que Vichy voulait conserver sa position de neutralité vis-à-vis de l'Axe. C'est vraiment absurde. Pourquoi ? Parce que si Vichy avait voulu garder sa position de neutralité vis-à-vis de l'Axe, il lui suffit que Nogues reste le représentant du maréchal Pétain en Afrique du Nord, puisque ce n'était pas lui qui était chargé de reprendre la guerre contre l'Axe. C'était Darlan. Donc, Paxton prend ses lecteurs pour des imbéciles. Voilà. Alors, quel est le sens véritable de ce télégramme ? Donc, je vous l'ai dit, c'est celui de la reprise des combats. Petite citation de votre serviteur. Le sens de ce télégramme est parfaitement clair. Bien que pour Pétain et Laval, il n'avait pas la même portée. Offant signifie à Darlan que Pétain approuve qu'il redevienne son représentant officiel en Afrique du Nord, mais qu'une décision officielle sera soumise à l'occupant. Décision qui pourra contredire le vœu intime du maréchal. Darlan comprend ainsi que la position officielle du maréchal ne reflétera pas sa volonté. Pour Laval, l'approbation de ce transfert de pouvoir à Darlan est un expédient nécessaire pour éviter que les choses ne s'enveniment en Afrique du Nord au profit de Giraud. Pour Pétain, ce transfert de pouvoir est synonyme d'exécution de la mission du 4 août 1940, puisque les Allemands ont envahi la zone libre et que l'amiral Darlan est libre d'agir. Il est donc naturel que Pétain approuve l'envoi du télégramme. Voilà. Donc Pétain a approuvé la reprise du combat de la France donc, contre l'Axe. Pétain approuve tout simplement l'exécution de la mission du 4 août 1940. Le télégramme de Pétain, accord intime, arrive à Alger à 16h. Et c'est l'amiral Battet de mémoire qui le déchiffre dans son code secret. Darlan est derrière lui et nerveusement, il fume sa pipe. Parce qu'il veut savoir s'il est ultimement approuvé ou non par le maréchal Pétain. Et petit à petit, donc l'amiral Battet déchiffre le code et on voit apparaître la formule accord intime du maréchal. Et à ce moment-là, Darlan se métamorphose et il dit « On a l'accord du vieux monsieur ». Et en retour, Darlan envoie à ses amis et membres du gouvernement, et non pas du débarquement, n'est-ce pas, à ses amis membres du gouvernement, le dernier message, son ultime message, compris, adieu, bonne chance à tous. Et il n'y aura plus de contact entre Darlan et Pétain. Noguès va faire sa proclamation à 20h10. Donc officiellement, Noguès transmet ses pouvoirs à Darlan. Et immédiatement, Darlan fait savoir qu'il assure la défense de l'Afrique du Nord contre l'Axe. La France reprend officiellement le combat contre l'Axe le 13 novembre 1942. Voilà. Et elle le fait au nom du maréchal Pétain. Vous observerez que De Gaulle est totalement aux abonnés absents. Il n'est pas du tout dans le processus. Vichy a forgé l'armée de la revanche. Vichy a relancé cette armée de la revanche dans la guerre contre l'Axe le 13 novembre 1942 grâce à l'amiral Darlan. Donc, la France reprend officiellement la guerre contre l'Axe au nom du maréchal Pétain. La formule employée à l'époque est la suivante dans les documents officiels, au nom du maréchal empêché. Le 14 novembre, Darlan envoie un télégramme au général Barré, qui est le général son armée, l'armée française, en Tunisie. Et dans ce télégramme, j'y arrive, il dit ceci, représentant du maréchal, donc lui-même, l'amiral Darlan, donc c'est bien au nom du maréchal Pétain qu'on reprend la guerre, représentant du maréchal a décidé de s'opposer à la progression des forces de l'Axe. Giraud, qui est à la tête des armées d'Afrique, envoie au général Barré le 15 novembre le télégramme suivant, laissez-moi le retrouver. Tous unis dans l'amour de la France et du maréchal, n'ayons plus qu'une passion, la victoire. Tous unis dans l'amour de la France et du maréchal, n'ayons plus qu'une passion, la victoire. Combien de Français savent, chers amis, que la France a repris la guerre contre l'Axe au nom du maréchal Pétain? Combien de Français le savent? Une poignée. Donc les Français se structurent à partir d'un lavage de cerveau et non pas à partir de la véritable histoire de France. Voilà. Alors ce qui est important, c'est que Darlan, à deux reprises, publiquement, va parler de la mission du 4 août 1940. Il va le faire d'abord à la radio, Radio Maroc, et c'est un passage qui sera diffusé le 24 décembre 1942. Est-ce que je vais vous retrouver ça? Je l'espère, un petit instant. À quelle page j'ai pu mettre ça? Alors, attendez. Voilà, c'est là. Donc, le 24 décembre 1942, Darlan dit ceci à Radio Maroc. Lorsque le 11 novembre, la nouvelle vint que les conditions de l'armistice étaient violées par l'Allemagne, je m'estimais libre d'agir de nouveau et je fus à même d'exécuter les plans formulés par le maréchal en 1940, lorsque la France était en danger de l'être. Donc le plan formé par le maréchal en 1940, c'est la mission du 4 août dont je vous ai parlé. Et au journal TAM, qui sera publié seulement le 26 décembre, donc après la mort de Darlan, il a déclaré ceci: « Je me suis efforcé d'appliquer le plan du maréchal prévu en 1940. » Donc il nous dit qu'il exécute le plan du maréchal, la mission du 4 août 1940. Voilà, tout simplement. Et donc, pour reprendre la formule d'Eisenhower, citation, nous trouvions avec Darlan en présence du chef des forces françaises combattantes. Je répète, avec Darlan, nous nous trouvions en présence du chef des forces françaises combattantes. Voilà, chers amis, donc Darlan a relancé la France dans la guerre le 13 novembre 1942, en application de la mission du 4 août 1940 qui avait été donnée, qui lui avait été donnée par Pétain. Et aussi, il a été approuvé pour cela par Pétain via un télégramme secret. Donc, pour lutter contre l'Axe, Darlan va créer ce qu'on appelle le Haut Commissariat, qui est une sorte de gouvernement. Le 17 novembre, Roosevelt, qui subit les critiques de la presse américaine pour avoir collaboré avec un individu qu'on avait lui-même accusé d'avoir collaboré avec les nazis, Roosevelt qualifie Darlan d'expédient provisoire. En somme, on va le dégager rapidement. Sauf que ce n'est pas la réalité. Darlan voit son autorité être reconnue par les accords qu'il conclut avec Clark le 22 décembre. Et Eisenhower va être sous le charme de Darlan et Roosevelt va décider de le garder à la tête de ce commissariat jusqu'à la fin de la guerre. Le 27 novembre, les Allemands tentent de s'emparer de la flotte de Toulon. Et à ce moment-là, c'est l'honneur de la marine française. Les bâtiments refusent de se laisser prendre et ils se sabordent. Le 28 novembre, officiellement, Darlan est déchu de sa nationalité française. Mais ne nous laissons pas tromper par les apparences. En réalité, à ce moment-là, tout va pour le mieux pour le maréchal Pétain et pour Vichy. Pourquoi ? Parce que d'une part, on a évité un trop grand surcroît d'oppression suite à la reprise des combats contre l'Axe en France. Et d'autre part, en Afrique du Nord, la guerre continue contre l'Axe au nom du maréchal Pétain. Donc, je me cite. À ce stade des événements, tout se passait au mieux pour la France. Pétain restait en métropole, faisait barrage à l'instauration d'un gouvernement collaborationniste, Doriot Déa. Pendant ce temps, l'Empire, dirigé par l'amiral Darlan, combattait l'Axe en Tunisie. Là, je cite l'amiral Offan. Ces deux morceaux de France se seraient rejoints tout naturellement à la libération du territoire dans le même respect fondamental de la Révolution nationale, donc de la contre-révolution ressuscitée par Pétain et Végan, et le même rejet de l'esprit subversif qui animait la dissidence. Si ce rêve ne s'est pas réalisé, c'est que le 24 décembre 1942, l'amiral Darlan a été assassiné par un petit groupe de gaullistes et de monarchistes, joints à des putschistes du 8 novembre, qui prenaient leur revanche. Voilà, donc justice pour l'amiral Darlan. On a reproché à cette époque à Pétain de ne pas être allé en Afrique du Nord. En réalité, Pétain a sauvé les Alliés en faisant ça. Pourquoi ? Parce que si Pétain était allé en Afrique du Nord, il aurait laissé la place en France pour créer un gouvernement collaborationniste Doriot Déa, qui aurait déclaré la guerre aux Alliés et dans le cadre d'une alliance contre l'Axe. Et ça aurait été une catastrophe pour la France. La France aurait été parmi les vaincus pendant la guerre. À l'issue de la guerre, pardon. Qui sait ce qui en aurait découlé. Si on devait faire juste un reproche à Pétain à ce moment-là, c'est de ne pas avoir envoyé Végan en Afrique du Nord. Puisqu'ils ont osé, les anglo-gaullistes ont osé assassiner Darlan, ils n'auraient pas osé assassiner Végan. Voilà le seul reproche respectueux qu'on peut faire au maréchal Pétain. Mais Pétain, dans l'absolu, n'avait pas besoin d'être présent là-bas, puisqu'il y avait son représentant officiel, l'amiral Darlan, qui combattait au nom du maréchal empêché. Pour le plus grand malheur de la France, Darlan va être assassiné dans le cadre d'un complot gaulo-monarchiste. Le comte de Paris souhaite profiter des événements pour monter sur le trône. De Gaulle, de son côté, est catastrophé par la tournure des événements, puisqu'il était censé être le chef de la France combattante. Et voilà que les alliés reconnaissent Darlan comme le chef de la France combattante. Et voilà que l'armée de la revanche combat au nom du maréchal Pétain empêché, sous les ordres de Giraud et de Darlan. C'est une catastrophe pour De Gaulle. Il est totalement évincé. Donc il y a plusieurs sources, vous pouvez trouver dans le livre, qui nous disent qu'à cette époque, début décembre, 1942, De Gaulle suggère très fortement aux Anglais de se débarrasser de Darlan. Le 19 décembre 1942, l'adjoint du général De Gaulle, le général d'Astier de la Vigerie, François d'Astier de la Vigerie, frère d'Henri d'Astier de la Vigerie, qui est l'agent du comte de Paris, à Alger. Donc, François d'Astier de la Vigerie, agent de De Gaulle, arrive à Oran de mémoire. Enfin, il arrive à Alger. Pardon, excusez-moi. Et il y arrive avec 40 000 dollars. Détail important. Le lendemain, le 20 décembre, François d'Assis de la Vigerie rencontre le président du conseil général d'Oran, M. Paul Saurin, et lui annonce que Darlan va se faire assassiner. Ce même jour, le général d'Assis de la Vigerie rencontre l'amiral François Darlan, pour lui demander de quitter le pouvoir, mais Darlan refuse. Le 21 décembre 1942, le comte de Paris donne l'ordre à Henri d'Astier de la Vigerie, donc frère de François d'Astier, d'assassiner l'amiral Darlan. Nous avons à ce sujet notamment le témoignage de M. Mario Fèvre, qui était un ami de Fernand Bonnier-Lachapelle, qui est l'assassin de Darlan. Et donc, Mario Fèvre atteste que Henri d'Astier de la Vigerie lui a dit ceci. Mon frère François a apporté de Londres l'instruction formelle d'éliminer Darlan. Mon frère François a apporté de Londres l'instruction formelle d'éliminer Darlan. Donc l'ordre de tuer Darlan est parti de Gaulle. Donc je répète, le 21 décembre, le comte de Paris donne l'ordre à Henri d'Astier de la Vigerie d'assassiner Darlan. D'Astier de la Vigerie appelle son homme de main, un prêtre, un abbé, l'abbé Cordier, qui lui-même appelle son homme de main le fameux Fernand Bonnier de la Chapelle, dont je vous parle. Le 23 décembre, on remet à Fernand Bonnier de la Chapelle une arme, le plan des lieux et 2000 dollars, les dollars de François d'Astier de la Vigerie. On lui remet également des faux papiers via le commissaire Acchiari, qui est lui aussi un agent gaulliste. Donc on voit bien que les gaullistes participent à la conspiration, participent à l'assassinat. Le 24 décembre a lieu quelque chose d'odieux. L'abbé Cordier fait faire une confession sacrilège au jeune Fernand Bonnier-Lachapelle, puisqu'il lui fait confesser un crime qu'il n'a pas encore commis. Ça ne vaut strictement rien, sacramentellement parlant. C'est une absolution sacrilège. Et nous arrivons donc, chers amis, au jour de l'assassinat, le 24 décembre. Donc à ce moment-là, au matin, donc Bonnier parvient à entrer au palais d'été, qui est le lieu du gouvernement, et il attend Darlan dans une pièce adjacente à son bureau. Il y remplit une fiche d'usage par laquelle, sous le nom de Morand, il demande audience pour voir M. Jox, donc, qui est un des membres du Haut Commissariat. Darlan arrive à ce moment-là au palais d'été et il est accompagné du capitaine de frégate Jean Ourcade. Il arrive vers 15h. Bonnier aperçoit Darlan dans le couloir et se précipite sur lui et lui tire 3 balles dans le dos. Darlan, citation, s'affaisse en avant et donne de la mâchoire supérieure droite sur le coin de la table de travail, puisque la porte de son bureau était ouverte, donc Darlan, après être touché, à sa mâchoire qui vient se fracasser sur son bureau. Sous le choc, son râtelier se déchausse, plusieurs dents sont arrachées. Puis, pivotant, Il tombe sur le plancher. Le capitaine de frégate Ourcade, qui était à quelques mètres derrière Darlan, se jette sur Bonnier de la Chapelle et tente de lui retirer son arme. Bonnier parvient à s'enfuir dans le bureau donc, de Darlan et tire sur Ourcade. Donc on voit bien que Bonnier est un misérable assassin. Hein. Donc Ourcade qui l'avait suivi, mais Ourcade a un réflexe, il lève sa cuisse et la balle arrive dans la cuisse. Bonnier finalement est neutralisé. Il est neutralisé par le chauffeur de Darlan, l'huissier et le chaouche, et aussi l'aspirant Maury, pardon. L'amiral Battet, donc le chef de cabinet de Darlan, donne l'ordre de conduire Darlan immédiatement à l'hôpital Maillot à Alger. Battet accompagne Darlan le long du trajet et il lui dit ceci pour tenter de le revigorer. On vous sortira de là, on vous sauvera. Mais Darlan, par un signe de tête, lui dit que non. Il sait que c'est fini. Et effectivement, il va mourir quelques instants après. Donc je réclame justice, chers amis, pour l'amiral Darlan. Que nous dit Murphy à ce sujet dans ses mémoires ? Le témoignage de Murphy vaut aussi, je crois, pour le général Clark. Murphy écrit et donc ceci dans ses mémoires. Donc je répète, le représentant de Roosevelt en Afrique du Nord. Lorsque nous arrivâmes à l'hôpital militaire, Clark et moi, Darlan venait de mourir sur la table d'opération. Nombre de chroniqueurs américains et britanniques présentèrent cet assassinat comme un événement heureux. Selon eux, la carte d'Arlan imposait aux alliés un intolérable fardeau de compromission. La mort de Darlan les en débarrassait. Tel n'a jamais été mon sentiment. Le président Roosevelt savait qu'il lui suffisait de demander la démission de l'amiral pour l'obtenir instantanément. À l'hôpital, Clark et moi tombâmes d'accord. Plus qu'aucun autre Français, Darlan avait contribué au succès d'une aventure militaire et diplomatique terriblement aléatoire. Donc on voit que Clark et Murphy déplorent la mort de Darlan et ils reconnaissent qu'il a joué un rôle très important pour la victoire. Et je vais essayer de vous retrouver une citation de Darlan qu'il a faite au journal américain en novembre 1942. Un petit instant. Darlan déclarait ceci. Le 18 décembre 1942 au Cosmopolitan. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, en accord avec les alliés britanniques et américains, pour promouvoir cet ordre chrétien qui s'oppose aux utopies matérialistes et païennes des pseudo-philosophes hitlériens et fascistes. Roosevelt va également condamner l'assassinat. Et il va y avoir le 25 décembre, le lendemain, eh bien, une déclaration officielle du général Bergeret, qui est membre, je crois, de mémoire du Haut-Commissariat également. L'amiral Darlan vient de tomber à son poste, victime d'un attentat qui fut inspiré par ceux qui ne lui avaient pas pardonné d'avoir répondu aux vœux du peuple français en reprenant aux côtés des alliés la lutte contre l'Axe. Dans tout cela, que devient le misérable Fernand Bonnier Lachapelle ? Donc, comme je vous le dis, il est arrêté. Alors, je conclue à son sujet. Fernand Bonnier de la Chapelle est un misérable assassin, doublé d'un parfait imbécile, persuadé de se comporter en héros alors qu'il faisait à la France un mal incalculable. Peu de Français ont autant nui que lui à la France dans son histoire. L'abbé Cordier, quant à lui, qui a envoyé à la mort un enfant manipulable, ne mérite pas une considération supérieure. Bonnier va être l'objet d'un procès totalement expéditif, donc un procès un peu bidon, hein, disons-le clairement, et il va être exécuté immédiatement puisque Giraud refuse la grâce. C'est d'une stupidité absolue puisque on empêche des policiers de lui tirer les verres du nez pour remonter, pour avoir des informations sur le complot. Jacques Izorni, dans ses mémoires, écrira à ce sujet « Comment peut-on être aussi bête ?» Néanmoins, chers amis, il n'y a aucun doute quant au fait que De Gaulle est à l'origine de tout cela. Pourquoi ? Premièrement, c'est la venue de l'adjoint du général De Gaulle, le général François d'Astier de la Vigerie, qui enclenche la mécanique infernale. Les témoignages de Mario Fèvre et de Paul Serin convergent pour dire que François d'Astier a emmené de Londres l'ordre d'exécuter Darlan. C'est l'agent gaulliste Acquiari qui donne ses faux papiers à Bonnier-Lachapelle. Et enfin, on retrouve sur Brunet la Chapelle $2000 apportés de Londres par François d'Assise de la Vigie. Donc les gaullistes ont financé Fernand Brunet la Chapelle. Les Américains, non satisfaits des premières conclusions de l'enquête, disant que Bonnier était un simple excité, vont demander la réouverture du dossier. Et le commandant Albert Jean Boiturier, magistrat militaire, va conclure lui aussi que De Gaulle est derrière tout cela. Mais on va l'empêcher d'aller au bout, puisque Giraud, pour raison d'État, va l'empêcher de mettre en cause le général De Gaulle. Donc on voit que Giraud enchaîne boulette sur boulette contre les intérêts de la France. Voilà. Mais le commandant Voiturier écrira un ouvrage dans lequel il dira que, selon lui, De Gaulle est derrière tout cela, et je pense que nous en avons apporté la preuve, hein, puisque ce sont les gaullistes qui ont fourni à l'assassin de l'argent, des faux papiers, etc. Et surtout, Voiturier, après cette enquête, va être totalement persécuté par sa hiérarchie, et il va être obligé de quitter l'armée pour devenir avocat. Voilà, chers amis, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai rien oublié. À ce stade des événements, l'armée d'Afrique combat contre l'Axe. Et nous verrons que Giraud va remplacer Darlan à la tête du Haut-Commissariat. Le prochain épisode sera consacré à ce que j'appelle le braquage de 1943. Comment cette armée de la revanche, forgée par Weygand, relancée par Darlan dans les combats, comment cette armée d'Afrique fidèle au maréchal Pétain à Vichy, a-t-elle pu se retrouver quelques mois plus tard sous l'autorité du général de Gaulle? Tout cela est dû à l'imbécilité et à la trahison de Jean Giraud, du général Giraud, pardon, qui était d'ailleurs mystifié par Jean Monnet, agent gaulliste à l'époque. Nous reparlerons de tout ça dans la prochaine émission qui sera le braquage de 1943. J'en ai terminé. Cher Patrick Catelon, y a-t-il des questions intelligentes?
Il y a quelques questions.
Alors, intelligente, j'espère.
Intelligente, oui, je pense que c'est...
Et je réclame justice, chers amis, pour l'amiral Darlan, qui est totalement oublié, qui n'intéresse absolument pas le camp national. Mais voilà, il nous faut restaurer la vérité, il nous faut restaurer la réputation des personnes calomniées, et on ne refera la France que sur ses bases véritables, que sur son histoire véritable. Donc, pour refaire la France, il faut avoir une idée claire sur ce qu'est l'histoire de France. Voilà.
Alors, il y a une question de Piwi à laquelle vous venez de répondre à la toute fin. À propos de l'assassinat de Darlan, peut-être avez-vous déjà répondu, mais pouvez-vous préciser dans quelle mesure De Gaulle était impliqué? Churchill semble évidemment à la manœuvre, mais a-t-il informé De Gaulle? Est-il parti prenante?
Comme je vous l'ai dit, on a le témoignage notamment de Mario Fèvre, qui nous dit que c'est De Gaulle, que l'ordre de tuer Darlan vient de De Gaulle. Quand on dit Londres, c'est De Gaulle qui est visé, beaucoup moins que Churchill. Et on voit bien que ce sont les gaullistes qui ont financé l'assassinat et qui l'ont matériellement mis en œuvre. Et sans cet assassinat, De Gaulle n'aurait jamais existé politiquement. En passant. De Gaulle était presque le seul à avoir un mobile pour assassiner Darlan. Je développe tout ça davantage dans le bouquin.
On a une question de Dupinski. Je serais curieux de connaître le processus de travail, de recherche, de sélection et d'écriture d'Adrien Abosi pour ses derniers bouquins.
Ouais, c'est très simple, c'est 10 ans de boulot. C'est pas compliqué. C'est 10 ans de boulot, c'est 10 ans de lecture, c'est des centaines de bouquins. C'est un paquet de notes de bas de page. Je priorise dans les notes de bas de page et dans les preuves que j'utilise des livres de résistants, des livres d'anglo-saxons. Sur la question juive, je priorise pour des sources pareillement qui sont des historiens israéliens, des historiens américains, pour qu'on ne dise pas que je prends des sources de parti pris. Voilà. Donc, niveau source, c'est du béton armé. J'ai vu un commentaire dans une émission précédente disant que j'apportais pas mes sources. Cette personne n'a pas lu mon livre, parce que le bouquin est bourré de sources. Il est bourré de sources, et surtout, je rappelle la vérité, c'est-à-dire ce qui est conforme avec le réel. Il n'est pas conforme avec le réel de dire que De Gaulle a relancé la France dans la guerre. Il n'est pas conforme avec le réel de dire que De Gaulle a bâti l'armée de la revanche. C'est faux. Tout cela, c'est Vichy qui l'a fait. Voilà. Donc je suis, entre guillemets, pardonnez-moi la formule, inclassable sur la question des sources. Voilà.
Au sujet d'anglicisme, je me suis dit que pour le stand, on pouvait traduire par un étal, peut-être.
Tout à fait.
Une autre question de Pin the Sky. Adrien Abosi a-t-il essayé de modifier la fiche Wikipédia de Darlan? Ce serait drôle d'essayer avec ses pièces écrites et démasquées.
À mon avis, c'est impossible, puisqu'il y aurait un torrent de trolls au service du mensonge et du système. Le système repose sur le mensonge, hein, n'oubliez pas, chers amis. Il n'est pas permis de dire la vérité. Mais, chers amis, imaginez que cette vérité soit un jour enseignée le soir à la télévision, à échéance régulière. Le visage de la France change, puisque on sera obligé de vomir tout ce monde artificiel que nous avons créé sur la base des mensonges. Des mensonges gaulo-communistes. La vérité est le plus puissant des instruments. Voilà. Pour changer les choses, on va dire ça comme ça, pour employer des termes un peu pudiques.
Il y a une question hors sujet. Est-ce qu'on la pose ? C'est sur le catholicisme.
Ouais, allez-y, ouais.
Tsukinade Tsukini qui demande, donc qui s'excuse.
Il n'a pas un nom très catholique, lui. Hein.
qui s'excuse, rien à voir avec le sujet traité aujourd'hui, mais je voulais savoir ce que pensait M. Abosi de la semaine sainte réformée par le pape Pie XII.
J'ai répondu à ça 150 000 fois. Bah, c'est un rite qui est parfaitement dans les clous, qui est parfaitement infaillible, qui est parfaitement orthodoxe. Simplement, chers amis, nous n'avons pas d'autorité aujourd'hui. Donc, les prêtres ont une latitude pour utiliser le rite qu'ils veulent, le rite approuvé par l'Église qu'ils veulent. Donc, il y en a qui peuvent utiliser le rite ambrosien, il y en a qui peuvent utiliser le rite bénédictin, il y en a qui peuvent utiliser la réforme de Pie XII, et il y en a qui peuvent utiliser la messe sous Saint-Pie X. Voilà, tout simplement. Il n'y a vraiment aucune raison d'exciter les esprits à ce sujet.
Une question de Jean Cardignac. Est-ce que vous avez un mot pour le personnage de Pierre Lefranc dans le débat des dossiers de l'écran sur Pétain ?
Il est absolument odieux dans ce débat. Odieux et sophiste. Tout comme sont odieux et sophistes les autres personnes qui défendent le mensonge sur ce plateau. Et d'ailleurs, dans mon livre, je mets des extraits de ce débat pour tourner en ridicule les personnes qui étaient des partisans du mensonge, notamment l'ancien ministre de l'épuration de la justice, Ted Guin, qui tient des propos mais totalement ridicules, et je mouche aussi l'historien de cour Henri Michel. Voilà. On reparlera peut-être de ça une autre fois.
Cédric Marion demande, à quand une émission sur la Révolution française ?
C'est pas mon sujet, c'est pas un sujet que je maîtrise le plus, hein, mais un jour peut-être. C'est pas ma priorité.
Une question de... Pardon, je vous ai un peu
interrompu. Non, mais c'est pas ma priorité, voilà.
Une question de France. Question. Dans la précédente vidéo, donc Pétain contre Hitler, un petit extrait de film montre le maréchal Pétain à son bureau discutant avec son ministre d'un ouvrage à paraître. D'où est tiré cet extrait ?
Je l'ai tiré d'Internet. C'était issu d'un reportage, d'un documentaire fait sur Pétain sur le service public. Voilà. La vidéo est sur YouTube et sur Odyssée, donc on l'a pris parce que ça montre un Pétain décontracté, c'est assez rigolo. Voilà. Et je précise aussi un truc par rapport à la dernière émission, puisqu'il y a des personnes qui me font grief de me réjouir de la défaite de l'Axe. Ça me paraît, mais complètement fou. Ces gens-là nous disent, c'est parce qu'il y a eu la défaite de l'Axe qu'on a la situation actuelle au niveau de l'immigration. C'est complètement dingue de dire ça. C'est ceux qui vous disent, on parle pas allemand, mais en gros, mais on parle africain. C'est d'une bêtise, mais totale. Déjà, c'est un anachronisme, pour commencer. Bon. Et si, à partir des années 70-80, des millions et des millions d'Africains, d'Asiatiques et de personnes issues du Moyen-Orient ont décidé de venir en Europe, ça n'a rien à voir avec la défaite de 45. C'est un événement qui arrive 25 ans plus tard. Par contre, chers amis, si les Français ont eu une mentalité pour accepter cette invasion, c'est à cause de qui ? C'est parce que les esprits étaient droit-de-l'homisés, américanisés et gauchisés. Le régime de Vichy n'allait pas dans ce sens-là. Il était anticommuniste. Il n'était pas pro-américain d'un point de vue des valeurs sociétales, puisque le régime de Vichy était appliqué à la morale catholique, et il était contre-révolutionnaire. Qui a détruit le régime de Vichy, chers amis, le 20 août 1944 ? Vichy n'a pas été renversé par De Gaulle et les communistes. C'est Hitler qui a détruit le régime de Vichy en faisant arrêter le maréchal Pétain et en l'emmenant en Allemagne. Et qu'ont fait les gaulo-communistes ? Ils sont rentrés comme dans du beurre dans le pouvoir, si je puis dire, puisque la place était vacante et ils ont occupé la place laissée vacante, et que Hitler a rendu vacante. Donc Hitler et le Reich ont mis en place le communisme en France. Voilà. Donc la gauchisation des esprits vient en partie de cela. Autre question. Qui a donné aux États-Unis l'opportunité de mettre la main sur l'Europe ? en les faisant intervenir dans le conflit. Réponse, l'Allemagne. L'Allemagne de l'époque. Autre question, qui a permis à l'URSS de coloniser un bon tiers de l'Europe? Voilà. Donc au bout d'un moment, vous voyez, il faut ouvrir les yeux, quoi. Vous voyez, je discutais il y a quelques jours avec des gens qui m'expliquaient que Mitt Brennender-Sorge ne condamnait pas le national-socialisme. Mais ça condamne quoi alors, Mitt Brennender-Sorge? Ça condamne les Égyptiens, les Brésiliens, ça condamne quoi? C'est pas très sérieux. Par ailleurs, Pidouze, dans un texte, dans une allocution, nous dit que le national-socialisme est une apostasie. Je discute avec des personnes qui disent national-socialistes et catholiques. Et je leur dis, mais écoutez, vous voyez bien que votre idéologie est condamnée par l'Église. Pidouze vous dit que c'est une apostasie. Ah mais non, mais il a dit après la guerre, ceci... Mais peu importe. Pidouze est pape, c'est la personne la plus compétente sur Terre pour dire ce qui relève ou non de l'apostasie. Donc moi, je suis d'accord avec Pidouze. Vous, vous dites catholique, vous n'êtes pas d'accord avec Pidouze. Ben, vous n'êtes pas catholique. Voilà. Parce que quand on adhère et quand on approuve quelque chose qui est condamné par l'Église, avec pertinacité, on n'est pas catholique. C'est pas compliqué, en fait. Voilà. Donc, c'est une bonne chose que l'Axe ait été vaincu. Et ce qui est arrivé derrière n'est pas lié à la défaite de l'Axe. Ce qui est arrivé derrière est né du fait qu'on a eu des régimes révolutionnaires. Et qui a détruit le régime contre-révolutionnaire qu'il y avait en France pour laisser la place à un régime révolutionnaire? C'est le Troisième Reich. Donc, on ne va pas inverser le rôle. Et je rappelle qu'après la guerre, on avait des régimes autoritaire tendant vers le catholicisme. Pas parfait sans doute, hein. Mais on en avait au Portugal, on en avait en Espagne. Donc, ce que j'appelle le dernier royaume de France aurait pu rester après la guerre s'il n'avait pas été détruit. Donc là, je demande aux gens de ne pas faire comme les conspis, c'est-à-dire de rallier des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, où il n'y a aucun lien de causalité entre eux, et de regarder l'histoire telle qu'elle s'est faite. Voilà. On avait un régime contre-révolutionnaire qui tendait vers le catholicisme, qui tendait vers le Christ-Roi. Et ce régime a été détruit par Hitler. C'est comme ça. Voilà. Et donc Hitler a contribué à la mise en place du communisme en France. Est-ce qu'il y a une ultime question, Patrick Catel?
Comment se fait-il, une question de Stéphane Michel, comment se fait-il que le livre de Végrand, fustigeant les mémoires de De Gaulle, n'a-t-il pas eu plus d'écho?
Parce que vous pensez qu'on vit dans un monde où la vérité intéresse beaucoup de monde. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vérité n'intéresse pas grand monde à notre époque. En cette matière, comme en matière spirituelle, les gens préfèrent le confort, bien souvent. Le conformisme, d'ailleurs, plutôt. Et nous, à notre micro, eh bien, nous essayons de défendre la vérité. Vérité sur la France, vérité sur la foi. Est-ce qu'il y a d'ultimes questions? Ultime, ultime.
Peut-être une dernière de France, toujours. Avez-vous un ou des livres à recommander sur la Révolution nationale?
Alors, j'ai pas le nom là, mais sur le contenu doctrinal de la Révolution nationale, c'est un livre qui s'appelle Vicier l'ordre moral, mais j'ai plus le nom de l'auteur, pardonnez-moi. C'est un universitaire de l'université Lyon 3. Et quand vous lisez la table des matières, il n'y a rien à critiquer d'un point de vue sociétal. Voilà. Je l'avais ramené dans ma conférence que j'avais faite sur Laval Pétain, j'ai plus le nom de l'auteur, pardonnez-moi. On peut lire aussi les ouvrages de l'amiral Auffant à ce sujet. Et de toute façon, je développe ça longuement dans mon bouquin.
Et est-ce que vous avez prévu un exposé général sur cette révolution nationale du maréchal? C'est Pioui qui...
Alors, j'avais fait une conférence à la librairie française à ce sujet, qui s'appelle Philippe Pétain, dernier roi de France. Voilà. Donc, je ne sais pas quand la librairie mettra la vidéo en ligne. Mais c'est une conférence que je referai ailleurs, je pense. Donc, on la mettra sur notre chaîne YouTube, potentiellement. Philippe Pétain, dernier roi de France. Voilà, retenez ça.
Je n'ai plus de questions.
Parce qu'il a réconcilié la France avec l'Église catholique. Ben, on va s'arrêter là, chers amis. Niveau actualité spirituelle, j'ai oublié d'en parler en introduction. Je vais vous dire trois choses. Premièrement, Prévost n'est pas un sous-Bergoglio. Il envoie du lourd. Il a reçu récemment un patriarche œcuménique de Constantinople. Il a parlé des deux églises. Donc il n'y a pas une seule église comme l'ancienne foi catholique selon Prévost, mais deux. Actuellement, il est en train de préparer un nouveau rite. En faveur, non pas du créateur, mais de la création. Un truc qui a l'air d'être Pachamamo compatible. Donc Prévost maintient le rythme de Bergoglio, voire même l'accélère. Donc Prévost est un destructeur de la foi. Deuxièmement, Mgr Vigano tourne mal. Il a des... Ses récentes interventions vont dans un très mauvais sens. Je ferai une vidéo à ce sujet, sur la chaîne de Maccabée probablement. J'oubliais que sur la chaîne de Maccabée, nous avons fait une vidéo sur le cardinal Rampolla pour démontrer que les accusations contre lui sont à ce jour calomnieuses, puisque toutes les pièces qu'on lui oppose sont bidons. Et j'observe que mes contradicteurs, qui me calomniaient, qui me dénigraient, qui m'insultaient publiquement, n'ont rien répondu sur le fond. Donc c'est-à-dire que leur dossier était bidon, et je ferai sans doute d'autres vidéos de mise au point sur des récentes accusations calomnieuses, qu'on trouve notamment sur la chaîne du Centenaire Romain. Je ferai sans doute d'autres mises au point qui vont fermer un certain nombre de bouches. Je dis ça en passant. Est-ce que vous pouvez mettre en description, Patrick Cathelon, la chaîne, la vidéo qui a été faite sur le canal Rampolla, qui est sur la chaîne de Maccabée, s'il vous plaît.
Je peux.
Voilà. Et dernier point sur la Fraternité Saint-Pédis. La Fraternité Saint-Pédis est partie pour avoir une scission. Pourquoi ? Monseigneur Felet ne veut pas sacrer. Les districts du monde entier, à l'exception du district de France, ne veulent pas sacrer. L'abbé Pagliarani veut sacrer. Le district de France le veut également. D'où un texte de l'abbé de Jorna l'année dernière à ce sujet. Bon. Il y a donc un grave désaccord. Donc, que fait en ce moment l'abbé Pagliarani ? Il s'adresse à des évêques de la résistance sulamsolienne pour savoir s'ils ne seraient pas d'accord éventuellement pour faire des sacres pour perpétuer la fraternité Saint-Pédis. On reparlera de tout ça très bientôt, chers amis. On n'oublie pas le combat pour la foi. Je fais des vidéos sur la chaîne de Maccabée. Je vais encore faire un certain nombre d'émissions sur Vichy. Je vais faire une émission avec Leclerc. Mais rassurez-vous, on va bientôt remettre des estocades dans le flanc du modernisme, cette abominable secte moderniste. Voilà. Je remercie Patrick Cathelon qui était à la technique. Et je vous dis à dans deux semaines, chers amis, probablement au 15 juillet. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée à tous.